Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
Appel solennel du pape François à mettre fin à la guerre en Syrie. Ce dimanche, le pape a décrété pour l'Église une journée de jeûne pour la paix dans ce pays, fixée pour le 7 septembre, samedi prochain. Le pape, qui par ailleurs a condamné l'usage des armes chimiques et réitéré son opposition à toute intervention armée. Dans ce magazine, nous réentendrons diverses interventions et analyses qui ont ponctué nos journaux et nos magazines sur ce délicat dossier toute cette semaine. Dans la seconde partie de ce magazine, une rediffusion estivale d'un invité du dimanche de Sœur Catherine Aubin, Rémi Brague, qui a reçu des mains du pape Benoît XVI le prix Ratzinger en octobre dernier et qui ces jours-ci participe à Castel Gandolfo à la réunion du club des anciens élèves de Joseph Ratzinger, le Ratzinger Schülerkreis. Le pape François a donc décidé ce dimanche qu'une journée de jeûne serait organisée samedi prochain 7 septembre pour la paix en Syrie et au Proche-Orient, le pape condamnant au passage très fermement l'usage des armes chimiques et réitérant son opposition à une intervention armée en Syrie, le compte-rendu de Thomas Chabol.
Que le cri de la paix s'élève avec force pour un monde de paix, plus jamais la guerre, a lancé le pape dans un appel vibrant et très solennel lors de la prière de l'Angélus devant des dizaines de milliers de personnes rassemblées sur la place Saint-Pierre.
Con particolare fermezza.
Je condamne avec une particulière fermeté l'usage des armes chimiques. J'ai encore gravé dans l'esprit et le cœur les terribles images des derniers jours, a poursuivi le pape argentin avant de s'écrier « Il y a un jugement de Dieu et un jugement de l'histoire sur nos actions auxquelles on ne peut pas échapper ». Le pape s'est ensuite élevé à nouveau contre toute intervention armée en déclarant « Ce n'est pas l'usage de la violence qui porte la paix. La guerre appelle la guerre, la violence appelle la violence. » Depuis plusieurs semaine, le pape appelle au dialogue, s'opposant avec force à une intervention armée en Syrie. Se déclarant très blessé par ce qui est en train de se passer en Syrie et les dramatiques développements qui se profilent, le pape a appelé de toutes ses forces les partis en Syrie à écouter la voix de leur propre conscience, ne pas s'enfermer dans leurs propres intérêts, mais à regarder l'autre comme un frère, entreprendre avec courage la voie de la négociation au-delà d'une opposition aveugle. Quant à la communauté internationale, il l'a exhorté à faire tous les efforts pour promouvoir sans hésitation des initiatives pour la paix dans ce pays basées sur le dialogue. Le pape, qui a reçu jeudi en urgence le roi Abdallah II de Jordanie, a aussi demandé qu'aucun effort ne soit épargné pour garantir l'assistance humanitaire à qui est touché par ce terrible conflit, en particulier les déplacés et les réfugiés dans les pays voisins. Le pape s'est ensuite demandé ce que l'on pouvait faire pour favoriser la paix.
Ho deciso di indire per tutta la Chiesa il 7 settembre prossimo.
J'ai décidé d'organiser pour toute l'Église le 7 septembre prochain une journée de jeûne et de prière pour la paix en Syrie, au Moyen-Orient et dans le monde entier. Le pape, qui a aussi annoncé ce jour-là une veillée de prière de 19h à minuit sur la place Saint-Pierre, a appelé l'ensemble des chrétiens mais aussi les fidèles d'autres confessions et les non-croyants à se joindre à cette journée.
Cet appel du pape ce dimanche était précédé samedi d'une réunion du pape avec ses plus proches collaborateurs, notamment les prélats attachés à la diplomatie, une réunion consacrée à la Syrie. Rappelons qu'avant cette exhortation solennelle de ce dimanche, jeudi déjà, lors de sa rencontre avec le roi de Jordanie, le pape avait déjà fortement recommandé d'éviter toute intervention militaire en Syrie. Toute la semaine, cette situation a fait l'objet d'analyses et d'interventions dans nos journaux et nos magazines. En voici un compte-rendu réalisé par Antonino Gallofaro.
Intervenir militairement en Syrie ou ne pas intervenir? La question est restée en suspens toute cette semaine. Elle s'est posée avec le bombardement de l'armée sur des positions rebelles près de Damas il y a une semaine et demie. Près de 1300 personnes auraient été tuées dans ce que l'opposition a qualifié d'attaque à l'arme chimique, ce qu'a démenti le régime de Bachar el-Assad. Depuis, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne se sont dit prêts à intervenir, mais sans arrêter de décision. Si une telle action semble désormais s'éloigner, en début de semaine déjà, Frédéric Ancel, spécialiste de géopolitique du Proche-Orient à Sciences Po Paris, nous expliquait qu'il n'y aurait pas d'intervention armée.
La première raison est liée à la capacité balistique, autrement dit de missile, hein, de Bachar al-Assad, lui qui a, voilà, déjà deux ans, hein, menacé l'Occident de mettre le feu à la région. Il en a les capacités. Autant un Kadhafi ne le pouvait pas il y a deux ans, autant Assad le peut. Il menace systématiquement le Golan sous contrôle israélien. Il pourrait frapper facilement la Jordanie, etc. Or, tous ces États sont alliés militairement des États-Unis. Ça signifierait une véritable escalade dans la région. Et ça, très franchement, personne n'en veut. Et puis la deuxième raison, plus importante encore, me semble-t-il, c'est la ligne rouge de Vladimir Poutine. Est-ce qu'on souhaite risquer une escalade avec la Russie? La réponse est non.
Est-ce qu'une telle action, une intervention militaire en Syrie, légale? Qu'est-ce que le droit international permet ou interdit? L'éclairage de Philippe Weckel, professeur de droit à l'Université de Nice.
La voie normale, celle qui s'impose, c'est chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui donne au Conseil de sécurité des pouvoirs exorbitants, des pouvoirs de prendre à peu près n'importe quelle décision, dont notamment l'autorisation d'emploi de la force. Là, il faudrait au minimum qu'il y ait une résolution. Et puis alors surtout, si les mesures qui sont prises sont des mesures assez strictes qui visent exclusivement les armes chimiques et leur destruction. C'est quand même une opération de haute voltige. On travaille absolument sans filet dans cette opération.
Face à une situation qui s'est dégradée de jour en jour cette semaine, l'Église a exprimé sa préoccupation. Un éditorial de l'Osservatore Romano, le quotidien du Saint-Siège, a critiqué le manque de prudence des pays occidentaux sur une possible intervention en Syrie. Monseigneur Maroun Naham, vicaire du patriarche latin de Jérusalem pour la Jordanie, nous a confié ses craintes.
On a peur pour nous, certainement, et j'espère qu'à la fin, la raison prévaille chez les grands. Est-ce qu'ils arrivent à une solution politique? Mais ça ne semble pas être le cas. On ne pourra pas prévoir la réaction syrienne, ni celle de Hezbollah, ni celle de l'Iran, ni celle d'Israël, si jamais Israël est attaqué. Mon Dieu, je désire vous demander de prier pour la paix dans cette terre sainte et qu'elle passe des moments de calvaire à quelques lueurs de la résurrection.
Je dis enfin coup d'arrêt, comme l'a affirmé le président français François Hollande par rapport à l'escalade de la violence en Syrie. Comment expliquer ce revirement des Occidentaux qui, après avoir menacé Damas, ont freiné sur l'intervention militaire? La réponse de Yann Richard, spécialiste du Moyen-Orient à l'Université Paris-Sorbonne.
Les Occidentaux sont très gênés. Parce que de toute façon, ce n'est pas le sentiment qui domine les décisions politiques, c'est des volontés d'intervention pour des intérêts purement politiques ou stratégiques. Je rappelle que concernant la Syrie, quand il y a eu en 1982 le massacre de Hama qui avait fait 20 000 morts, personne n'avait réagi à l'époque. Et concernant le massacre qui avait eu lieu en 1988, au Kurdistan par les Irakiens de Saddam Hussein. Il y avait eu des dizaines de milliers de morts, une attaque chimique sans proportion avec ce qui s'est passé à Damas récemment, et personne n'avait réagi puisque nous étions les alliés de Saddam Hussein dans sa guerre contre l'Iran. Je pense qu'aujourd'hui, les Occidentaux sont très gênés parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens d'intervenir.
Les Syriens, principaux concernés, sont partagés. C'est ce que nous a expliqué Hasni Abidi, politologue et directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève.
Le régime syrien bénéficie toujours, il faut l'avouer, d'une certaine popularité. Il est difficile de la mesurer, mais les Syriens, par exemple dans le camp des réfugiés, soit du côté libanais ou du côté turc ou du côté jordanien, disent que les frappes ou une intervention militaire est un mal nécessaire, surtout après le massacre de la ville Al-Ghouta avec l'arme chimique. Mais les Syriens qui sont derrière le régime ou ceux qui sont neutres, ils redoutent bien sûr des frappes et ensuite le jour d'après ce qui fait peur, c'est-à-dire la riposte du régime syrien et les conséquences sur le plan politique et bien sûr militaire sur la population qui se trouve aujourd'hui prise en otage contre un régime syrien prêt à aller jusqu'au bout et contre une détermination internationale ou des frappes aériennes avec, comme on sait, des dégâts collatéraux inévitables dans ce genre de frappes.
Le conflit en Syrie et ses conséquences sur la région, sur l'Irak notamment, victime d'attaques quotidiennes, une situation de violence et d'instabilité encore amplifiée par la crise syrienne, selon le patriarche de Babylone des Chaldéens, Monseigneur Sacco.
Chaque jour, il y a des explosions et des attaques et des gens morts. Parfois, on donne un nombre qui n'est pas exact. Les morts sont beaucoup plus nombreux. Donc, il y a 2 mois, ça commence à cause des élections entre les groupes politiques et aussi de la situation régionale qui a une répercussion sur la situation irakienne.
Nous vous le disions jeudi, le club des anciens élèves de Joseph Ratzinger, le Ratzinger Schülerkreis, est réuni cette année encore à Castel Gandolfo. Ce traditionnel séminaire d'été se déroule depuis samedi et se terminera le 3 septembre. Mais pour la première fois, Benoît XVI n'y participe pas. Ce dimanche, ils ont cependant assisté à une messe célébrée par le pape émérite au Vatican. Cette 38e édition est consacrée à la question de Dieu dans le contexte de la sécularisation, à la lumière de la pensée philosophique et théologique de Rémy Brague. Pour la seconde partie de ce magazine, pour la rubrique « L'invité du dimanche » de Sœur Catherine Aubin, rediffusons dès lors sa rencontre en octobre dernier avec Rémy Brague, qui venait alors de recevoir des mains du pape Benoît XVI le prix Ratzinger. Rémy Brague est professeur émérite de philosophie médiévale et arabe à l'université Panthéon-Sorbonne et professeur de philosophie des religions européennes à l'université Ludwig-Maximilien de Munich. Il a obtenu de nombreux prix internationaux, dont le Grand Prix de philosophie de l'Académie française. Après des travaux érudits sur Platon et Aristote, il publie « Europe, la voie romaine » en 1992, un essai important qui le fera connaître d'un large public. Interrogé par Catherine Aubin, le philosophe commence par nous partager ce qu'il souhaiterait que le christianisme soit dans 50 ans, à savoir un christianisme qui s'occupe du Christ.
Rémy Brague, quel est votre rêve pour dans 50 ans au sujet du christianisme? Car vous avez écrit « L'athéisme n'existera plus ». L'athéisme n'a pas d'avenir, mais vous rêvez d'un autre christianisme.
Je n'ai pas dit très exactement que l'athéisme n'existerait plus dans 50 ans. J'ai dit que dès maintenant, il est incapable de répondre à la question fondamentale de savoir pourquoi il est bon qu'il y ait des hommes sur cette terre. Donc, pour des raisons entièrement darwiniennes, je pense que l'athéisme est promis à l'extinction.
Alors, quel est votre rêve pour le christianisme dans 50 ans?
Oh, tout simplement que ce soit un christianisme qui mérite son nom, à savoir un christianisme qui s'intéresse au Christ et pas aux prétendues valeurs chrétiennes, encore moins à la prétendue morale chrétienne. Aux valeurs d'abord, parce que ce ne sont pas des personnes, et qu'il me semble plus intéressant de se consacrer à une personne qu'à des valeurs en plus qu'il faut défendre. Vous voyez leur faiblesse. En principe, ce qui sauve doit nous défendre. Nous n'avons pas à sauver les valeurs. Si les valeurs valent quelque chose, si je puis dire, c'est elles qui doivent nous défendre. Avec le Christ, c'est tout à fait différent. J'ai parlé des valeurs, j'ai parlé de la morale chrétienne. À mon avis, il n'y en existe aucune. Il existe une morale, tout court, qui n'est ni chrétienne, ni laïque, ni bouddhiste, ni islamique, ni quoi que ce soit. Et il existe une interprétation chrétienne de la morale qui fait intervenir, par exemple, ce que aucune considération de la loi morale ne peut penser, à savoir l'idée de pardon. La loi morale ne pardonne pas, pas plus que le code de la route. Le code de la route vous dit, ben, n'allez pas dans cette direction, ou faites attention, ralentissez, accélérez, je ne sais quoi. Mais il n'est pas capable de vous pardonner si vous le transgressez. Il constate simplement la transgression. Alors avec le christianisme, on entre dans une autre logique, qui est celle du pardon, qui est celle justement du rapport entre les personnes. Vous pouvez demander pardon à une personne, vous ne pouvez pas demander pardon à une loi, vous pouvez être pardonné par une personne, vous ne pouvez pas être pardonné par une loi, par une morale, par un système ou par des valeurs. Donc c'est ça qui me semble intéressant dans le christianisme, qu'il prenne au sérieux, si l'on peut dire, le fait qu'il est fondé sur le Christ.
Vous avez écrit un livre, il y a quelques années, qui s'appelle « Du Dieu des chrétiens, point, et d'un ou deux autres », dans lequel vous essayez de clarifier des termes et aussi tout un chapitre sur Dieu, la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire?
D'abord, mon titre est de toute évidence désinvolte. J'ai voulu faire comprendre que je n'avais nullement l'intention d'écrire un traité compassé de théologie comparée, ou je ne sais trop comment on pourrait dire, mais bien de procéder à une description, ou en tout cas à une esquisse, non pas de Dieu, on ne peut pas décrire Dieu comme on décrit un objet visible, mais on peut décrire la façon dont les chrétiens tentent de se le représenter. Et il m'a semblé, à étudier en philosophe, je dis bien que c'est un livre de philosophie, et pas, c'est un livre de philosophe en tout cas, c'est peut-être pas un livre de philosophie, mais c'est un livre écrit par un philosophe, et ça n'est certainement pas un livre de théologie. J'ai essayé de montrer que cette conception était très souvent méconnue, et fichtrement intéressante, en ce sens qu'elle présente traite le divin sous un jour qui me semble tout à fait original, nouveau, en rupture par rapport à pas mal de conceptions que se sont fait les philosophes ou que se font d'autres religions de celui-ci, à savoir le divin, et qu'il valait la peine de rappeler bien quelques traits fondamentaux de cette représentation chrétienne de Dieu.
Rémi Brague, comment est-ce que vous faites le lien entre votre intérêt pour le christianisme et pour l'histoire? Le cardinal Ruini, que vous avez vu hier pour le prix Ratzinger, dites-vous que vous êtes un vrai philosophe, un grand historien de la pensée qui unit à la force spéculative et à la vision historique une foi chrétienne, catholique, profonde.
Alors ce qui est objectivement vrai, c'est que j'essaye d'unir la foi chrétienne et la pratique de mon métier. Et alors j'aimerais bien que l'on interroge un plombier à ce sujet, qu'on lui demande comment faites-vous pour concilier votre métier de plombier et votre foi chrétienne.
Eh bien, je vous pose la question, Rémi Brun. Comment faites-vous ?
Allez-y. Alors moi, je n'ai pas du tout de question à vous de répondre sur les siphons et sur les lavabos, mais je dirais, j'essaye de faire bien mon métier, ce qui est déjà une chose tout à fait élémentaire, je crois, et j'essaye de faire que l'exercice de mon métier, qui n'est pas celui de plombier, je le répète, mais bien celui de philosophe, serve, bien pour employer la formule traditionnelle, à la gloire de Dieu, c'est-à-dire à la vie de l'homme. J'ai toujours été très frappé par la fameuse formule de saint Irénée, n'est-ce pas ? La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Il me semble effectivement que dans le souci de faire son métier correctement, de faire ce pourquoi on est payé en méritant son traitement, pour le dire très crûment, a quelque chose à voir avec le souci de bien faire son métier d'homme, et son métier d'homme en général, et d'introduire dans le souci de sa propre humanité, ce qu'il l'ouvre sur Dieu. Alors dans votre question, il y a également le rapport entre la philosophie et l'histoire. Je suis heureux que vous n'ayez pas mentionné la théologie, parce que je ne suis pas du tout théologien, et j'ai été un peu surpris, je dois dire, de recevoir ce prix Ratzinger, dont je m'imaginais qu'il était fait avant tout pour des théologiens. Alors philosophie et histoire, je ne suis pas historien de métier, je le regrette d'ailleurs, je n'ai jamais été formé à la rigueur de la méthode historique. Simplement, comme philosophe, je me sens un petit peu obligé de faire au moins de l'histoire de la philosophie, bien entendu, et plus largement de l'histoire des idées, c'est-à-dire également de l'histoire des idées dont il s'est avéré qu'elles ne tenaient pas la route, l'histoire des idées fausses, si je puis dire, l'histoire des représentations vagues que nous nous faisons de ce que nous sommes, de notre rapport à l'univers physique, de notre rapport au divin, de notre rapport aux animaux, de notre rapport aux autres hommes, etc., etc. Et cela me semble nécessaire pour comprendre notre époque. Parce que au fond, l'histoire du passé, je n'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse pas en tant que tel. Je ne procède pas à ce que Nietzsche appelait le tour du propriétaire dans le jardin du passé. J'essaye de montrer en quelle mesure le détour par une connaissance plus précise de ce qui nous a précédé nous permet de mieux comprendre ce que nous sommes et éventuellement les chemins que nous avons suivis, voire les impasses dans lesquelles nous nous sommes fourvoyés. Donc je conçois le souci de l'histoire de la pensée, qui est actuellement le plus clair du style philosophique dans lequel je travaille, comme n'ayant aucune autre fonction que celle d'un détour pour mieux comprendre où nous en sommes.
Voilà, c'était Rémi Brague, l'invité de Sœur Catherine Aubin. Parmi ses très nombreuses publications, on trouve « La sagesse du monde, histoire de l'expérience humaine de l'univers », publié en 1999, « La loi de Dieu, histoire philosophique d'une alliance » en 2005, et aussi « Du Dieu des chrétiens et d'un ou deux autres » en 2008. Ainsi prend fin ce magazine, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va et sur Facebook à Radio Vatican en français. On se retrouve demain, bien sûr, où que vous soyez.